Le non-retour. Édouard avait dormi, une vraie nuit, profonde et réparatrice. Son téléphone reposait encore dans le petit casier du rez-de-chaussée. Il commençait à s'habituer à ne le consulter qu'une poignée de fois par jour. Lorsque Gaël le taquinait en lui suggérant de l'éteindre le temps du séjour, il feignait de ne pas l'entendre. Il distinguait les bruits feutrés du dehors qui venaient s'évanouir contre les carreaux. Les sabots du cheval sur la route goudronnée, la voix de Gaël, un coq, le quotidien banal. Doux chemin s'était réveillé sans l'attendre et il aimait l'idée de s'être octroyé cette liberté-là. Partez devant, je vous rattrape. Il avait saisi son journal intime inachevé. Pour la deuxième fois depuis son arrivée, il révisait Élise comme un poème. Il avait commencé ce journal après leur rencontre, saisi par l'urgence de garder une trace du bonheur qu'il traversait et ne l'avait plus touché depuis son départ. Il sut qu'il avait déjà perdu trop de temps dans une existence qui lui promettait si peu de nouveaux printemps. 30, 40 tout au plus. Il devait revoir Élise. Il était urgent de donner du sens à chaque nouvelle seconde, pour compenser les heures, les jours, les années passées à ne pas en trouver. La veille, il avait accepté la proposition de Gaël. Il supposa qu'elle l'attendait déjà. Il se prépara à la hâte, descendit les marches en trombe. Suzanne, assise sur le banc à l'abri du vent, lézardait au soleil du matin. Sa peau ridée, offerte aux rayons orange, dessinait les dunes d'un désert aride. « Elle vous attend !» lui lança-t-elle sur un ton malicieux sans même ouvrir un œil. Gaël revenait du jardin avec quelques légumes en main et les cheveux lâchés. Il la trouva belle. Elle évoluait dans la nature comme si elle en faisait partie. L'allure d'un roseau solitaire offert aux bourrasques, qu'aucun autre élément ne protège. Il plie sous le vent et se redresse malgré tout. Il ne savait rien d'elle, si peu. Juste qu'elle tenait debout, digne, avenante, généreuse. Gaël lui avait proposé de randonner dans le Val sans retour pour lui distiller quelques explications arthuriennes. Enfin prêt, Édouard l'avait rejointe dans la cour. Elle l'attendait, adossée à la voiture. Il admirait chez elle cette capacité qu'elle avait de savoir parfois ne rien faire plusieurs minutes d'affilée. Ni scruter un téléphone, ni lire, ni désherber le bas-côté en attendant. Rien. Seulement se laisser traverser par le temps qui passe. Ils s'arrêtèrent au préalable à Tréhorontuck, devant l'église du Graal. Édouard vit en ce nom un parallèle avec sa propre quête. L'abbé Gillard, promu recteur de cette petite paroisse en 1942, nomination qui sonnait comme une punition, se dévoua durant des années pour rénover cet édifice qui tombait en ruine. Il réhabilita le lieu saint en entremêlant l'histoire chrétienne, la tradition celtique, la légende du Graal et même l'astrologie. De quoi être considéré comme un dissident. Il s'arrêta devant le porche de l'entrée et relut plusieurs fois l'inscription gravée dans la pierre. La porte est en dedans. La porte est en dedans. Si la sienne grinçait d'être rouillée, il disposait désormais de quelques outils pour lui redonner du jeu. L'atelier de Raymond, les mots de Denis, la gentillesse de Gaël, la curiosité de Gauvin, une lettre. Il devait revoir Élise. Assis sur un banc, face au premier lac à l'entrée du Val, l'arbre d'or à leur gauche, il regardait la brume persistante au fond de l'étendue et le reflet des pins qui tenaient la colline. Ambiance étrange et calme. Ce vallon coupé du monde semblait vous condamner à vous regarder en face, à l'abri du temps. La porte est en dedans. Le miroir au fait. Ou lac de Morgane. Encaissé et entouré de végétation, le lieu est protégé du vent, d'où la surface immobile comme un miroir. Le Val sans retour est un des lieux les plus symboliques de la forêt. Élève de Merlin, la fée Morgane, après avoir trouvé son amoureux Guillaumard dans les bras d'une autre, jeta une malédiction sur les amants infidèles en les enfermant dans ce Val. Lancelot du lac réussit un jour à les libérer. La réputation sulfureuse de Morgane a fait scandale quand l'abbé Gillard l'a fait apparaître sur le chemin de croix de l'église du Graal. Je te montrerai quand nous la visiterons. Gaël resta silencieuse un long moment. Lui pensait aux avances d'Adèle, à la ressemblance troublante avec la fée, belle, élancée, aux atouts certains et aux longs cheveux noirs libres et provocantes, un peu magicienne. « J'aime venir ici », poursuivit sa voisine. « En dehors de la période touristique où il y a trop de badauds, l'endroit est isolé et calme. On s'y sent protégé. Tu te sens en danger ? Ne peut-on être vulnérable sans être en réel danger ? Si. Son épouse et sa peur intrinsèque de la solitude étaient aussi frêles devant le vertige du silence et du néant qu'au bord d'une haute falaise par grand vent. Elle éprouvait sans cesse le besoin de s'entourer de bruit, de gens, de choses, de beaucoup de choses, pour couvrir l'appel hypnotique d'un vide sidéral intérieur. La fuite d'Edouard à Vannes avait ajouté de la profondeur au précipice. D'un autre côté, en agissant ainsi, il s'était éloigné du sien. Une phrase de Denis lui revint. « Le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. » Sur ce banc, devant ce lac, à côté de cette femme, dans ce moment calme, il ne se sentait pas égoïste. Il pensait à lui. « On en fait le tour ?» lui proposa Gaëlle. Il la suivit sur le sentier. À nouveau, l'eau rougeâtre du petit ruisseau. Il mit ce reflet sur le compte d'un gisement important de fer géologique. Sa guide avait une toute autre explication. Des fées vivant au fond du lac, l'une d'elles, amoureuse d'un beau chevalier de passage sur le chemin, l'ire terrible de ses sœurs. Le bel homme assassiné, la vengeance de la chagrinée. La couleur que tu vois là, en contrebas, n'est que le sang des sœurs à jamais blessées. Le ruisseau orange est à l'image de chacun de nous, se dit Édouard. Il y a la réalité, l'histoire que l'on s'invente, la légende que l'on se fabrique. Un chagrin d'amour fait aussi couler le sang rouge d'une blessure ancienne dans ses propres veines. Il devait revoir Élise. Ils reprirent la marche sur le sentier balisé. Il était temps de bifurquer vers la crête et grimper entre les énormes cailloux. Il passa devant, lui tendit la main par endroits pour l'aider à gravir les roches plus hautes. Elle souriait en retour, encore plus jolie que le matin, les pommettes rougies par l'effort. Ses joues rebondies la rendaient rassurante. On devinait un corps aux formes généreuses contre lequel il devait être bon de se blottir. Seul, avec cette femme au cœur du Val des Amants infidèles. Édouard eut soudain envie d'elle. Il chassa de son esprit ses pensées encombrantes, indécentes. Il voulait n'avoir envie que d'Élise. Quand bien même Denis lui assurait depuis toujours l'utilité des fantasmes, Édouard se sentait coupable et bien embarrassé de se trimballer en bandoulière le désir pour une femme qui marchait dans son ombre. Le sentier devenait plat et suivait la ligne de crête qui offrait un horizon dégagé, seulement entouré de quelques pins, de chênes trapus. Une lande s'étendait alentour, couverte d'ajoncs affreusement piquants. Il en avait fait l'expérience la fois précédente en les frôlant de son avant-bras. De genêts colorés, de calunes, de bruyères et d'asphodèles. Au sol affleurait un schiste rouge qui dessinait de nombreuses formes et présentait par endroits de longues plaques inclinées vers le lac en contrebas, comme d'immenses toboggans malheureux. « Voilà le siège de Merlin !» proclama Gaëlle en tendant ses deux bras en direction d'une excavation creusée dans le schiste. La légende dit qu'il venait s'y installer pour méditer et veiller sur le Val sans retour. « On peut s'y asseoir ?»«
Bien sûr.
Par contre, de là à devenir sorcier, je n'en espère pas tant. Quoique, d'après Raymond, la magie est déjà en dedans, comme la porte, » ajouta-t-il en s'installant. Elle rit. Et il en fut joyeux. Même si les premières feuilles mortes virevoltaient, la fin de l'été s'éternisait. Il avait fermé les yeux, le visage tourné vers le soleil. Il repensait à l'église, au symbole, à Élise, à ses paroles. Il se réjouissait d'être là, de ne penser à rien et à tout à la fois, à l'atelier de Raymond, à Gauvin, au plaisir qu'ils avaient eu à fouiner dans les étagères, à celui qu'ils auraient à bricoler ensemble. Édouard avait tant de choses à lui montrer, le garçon tant de secrets à lever. Depuis la gare de Vannes, un enchaînement étrange de circonstances œuvrait. Son arrivée dans cette communauté improvisée relevait-elle du hasard? Pourtant cartésien, il se surprenait à développer quelque élan spirituel pour expliquer des coïncidences troublantes, le derrière posé sur le siège d'un magicien. Au sortir de sa rêverie, il aperçut au loin le bleu d'un pull derrière un gros rocher, rejoignit Gaël d'un pas rapide. « Rocher des faux amants » commença-t-elle. « La légende dit que Morgane a changé Guillaumard et sa maîtresse en ces deux éléments. Séparés de quelques centimètres seulement et condamnés pour l'éternité à ne plus se toucher. » Elle passait sa main le long de la faille, caressant ainsi avec une douceur infinie le chagrin des amants de pierre. Édouard vit soudain le visage d'Élise, ses yeux tristes quand elle lui annonça la décision de son père, l'espace entre eux que le destin scellait désormais de vide. 30 ans pour le combler, sans être sûr que la faille se colmate. Il ne savait pas si l'amour était intact, ce qu'elle ressentait pour lui ni l'avenir possible. Il n'avait que les bribes du passé, magnifique et tragique, un passé fou et doux. Elle lui avait écrit, ne l'avait donc pas oublié. Lui non plus. Tout émergeait, remontait, jaillissait dans sa mémoire. Il devait revoir Élise. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Gaël en posant sa main sur l'épaule avachie d'Édouard. Il ne répondit pas. Se contenta de lui sourire avec la force du rescapé. « Rentrons, » dit-elle. « Gauvin doit nous attendre. » « Je peux t'emprunter la voiture demain ou après-demain ?»« Quand tu veux, » répondit-elle, déjà engagée dans le sentier qui dévalait vers le lac. Il peina à la suivre. La petite silhouette se faufilait mieux entre les rochers empilés que sa grande carcasse sans souplesse. Édouard avait commencé à la trouver encombrante à l'adolescence, quand il passait son temps à renverser le verre qu'il tentait de saisir, à rater les clanches de porte, à bousculer les gens dans la rue. Il avait toujours rêvé d'être grand avant de se rendre compte qu'une taille plus raisonnable offrait bien des avantages. Comme en ce moment précis où il se trouvait gauche et ridicule. « Tu es plus rapide en montée qu'en descente », constata Gaël qui l'attendait sur le banc près du lac. « Mais j'aime ta grandeur. Elle est rassurante. » Il fut troublé qu'elle formule ainsi un compliment sur sa taille alors qu'il venait de semer dans toute la descente des petits cailloux de mépris de lui-même. Et à nouveau, il avait envie de se blottir contre elle, ou plutôt de la prendre dans ses bras. La délicate renaissance du désir le rendait léger. Sur le chemin du retour, il eut peine à dissimuler son trouble. Une certitude s'imposa à Édouard. Cette promenade les avait conduits jusqu'à un point de non-retour. Il n'imaginait pas jusqu'où cela les mènerait.